9h18 à Rage Against le matin. Bon mercredi 16 avril. Vous l'avez sûrement vu passer, soit dans les différents médias, soit dans les bulletins de nouvelles, que la loi C5 fait énormément jaser et surtout la situation des peines Netflix pour les personnes reconnues coupables d'un crime à caractère sexuel. On va en jaser ce matin, Jeff, avec le ministre de la Justice pour la CAQ ici au Québec, Simon Jolin-Barrette, qui est au bout du fil.
Oui, en plein ça, parce que M. Jolin-Barrette a fait une déclaration hier là-dessus, demandant à tous les partis politiques fédéraux de durcir les peines pour les agresseurs sexuels. On ne peut pas être contre ceci.
Non,
c'est vraiment une prise de position qui nous plaît ici à Québec. Alors, c'est pour ça qu'on a organisé cette entrevue.
Monsieur Jolin-Barrette est au bout du fil. Bon matin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin, Monsieur Jolin-Barrette.
Ça fait un grand plaisir.
Vous l'avez entendu d'entrée de jeu et évidemment, vous connaissez bien le sujet et le dossier. Vous avez décrit hier la situation des peines Netflix de la loi C5 pour les personnes reconnues coupables d'un crime à caractère sexuel. Pourquoi le faire et pourquoi le faire maintenant?
Bien, écoutez, c'est un dossier qu'on porte depuis plus de 2 ans maintenant. Dès le moment où le gouvernement fédéral a modifié la loi, modifié le code criminel, parce qu'auparavant, il faut le dire, là, c'était pas possible pour la majorité des infractions graves en matière de violence sexuelle, d'agression sexuelle, de purger la peine à la maison, communément appelée la peine Netflix. Mm-hmm. Or, à l'Assemblée nationale, on a fait adopter une motion il y a de cela 2 ans. Tous les partis politiques à Québec sont d'accord avec le fait de demander au gouvernement fédéral de revoir sa position. Et dernièrement, on a eu les chiffres également des dernières années. Quel a été l'impact de cette modification législative-là par le gouvernement fédéral? Et c'est plus de 700 dossiers d'individus qui normalement auraient dû aller en prison dans le bâtiment physique et se sont vus condamnés à une sentence de prison à domicile, donc de peine Netflix, donc d'un emprisonnement avec sursis. Et ça, c'est déplorable pour la confiance des victimes et du public dans le système de justice. On fait tellement d'efforts au Québec pour lutter contre les violences sexuelles, oui, contre les agressions sexuelles, avec la mise en place du tribunal spécialisé sur les violences sexuelles et la violence conjugale, je trouve que ça envoie un très mauvais message. Puis on demande aux différents chefs des partis politiques fédéraux de s'engager, s'ils sont élus, à revoir le projet de loi C5.
Monsieur Jolin-Barrette, c'est vraiment peut-être dans les détails, mais juste pour bien comprendre, là, quand on parle de peine Netflix, peine à domicile, là, mettons quelqu'un est condamné à 20 mois, c'est fictif, là, 20 mois à la maison, c'est ça sa peine. La personne peut-tu sortir, cette personne-là qui est accusée d'actes sexuels, peut-tu sortir en société, dans la communauté?
Bien, il y a des conditions à respecter qui sont déterminées par la cour, par le tribunal, notamment pour travailler.
Okay.
Alors, il y a des suivis qui sont faits, mais la commission des services correctionnels fait des suivis par rapport à la personne. Alors, il y a des conditions à respecter, mais vous conviendrez avec moi que c'est pas la même chose,
ouais,
qu'une personne qui est entre quatre murs puis qui est emprisonnée. Puis surtout, je pense que la sentence doit être appropriée en fonction de la gravité du crime. Une personne là, qui a été violée et qui va subir les conséquences de cette agression-là toute sa vie, elle va à travers tout le processus judiciaire, elle a le courage de dénoncer, puis au bout du compte, l'accusé est déclaré coupable, puis il se retrouve à purger sa peine à la maison. Ça n'a pas de sens.
Je suis d'accord.
En effet. Qu'est-ce qui expliquait qu'on avait décidé, justement, d'être plus clément envers les agresseurs sexuels du côté du Parti libéral du Canada? Est-ce que c'était en raison du manque de place dans nos prisons?
Ben, c'est pas ce qui a été invoqué par le Parti libéral du Canada lorsqu'ils ont modifié la loi. Donc, écoutez, je vais les laisser s'expliquer à savoir pourquoi ils ont pris cette décision-là. Mais pour nous, c'est très clair que une personne qui agresse sexuellement un autre individu, ben, il faut que la peine représente la gravité de l'infraction. Et là, les juges sont pris avec ça parce que puisque le Parlement fédéral a modifié la loi, ben, les juges se retrouvent contraints à imposer ce genre de peine-là s'il n'y a pas de facteur aggravant. Alors, on a une question de société là ici à se poser. Si on veut faire en sorte de vraiment lutter contre les violences sexuelles, de dire que ce comportement-là, c'est inacceptable dans notre société, ben, il faut que les conséquences associées à ce geste-là, quand vous faites une agression sexuelle, ben, il y a un message très clair que vous irez en prison si vous êtes déclaré coupable. Écoutez, auparavant, là, c'était le cas. Il y avait des peines qui ne pouvaient pas être avec sursis, donc en prison. Puis je pense que pour la confiance des victimes, ça va de soi, là. Quelqu'un qui passe par le processus judiciaire, finalement, l'individu est déclaré coupable pour, supposons, un viol. On a eu un cas, là, d'exploitation sexuelle sur une dame âgée en CHSLD qui était atteinte d'Alzheimer. Puis son agresseur a été condamné à la maison.
Aïe, aïe, aïe.
Ça n'a pas de sens.
D'ailleurs, M. Jolin Barrette, est-ce que ces fameuses peines Netflix peuvent venir décourager certaines victimes à vouloir venir dénoncer parce que la personne, l'accusée, ne va pas en prison?
Ben écoutez, moi, je ne le souhaite pas. Depuis plusieurs années, on travaille pour que les personnes victimes n'hésitent pas à dénoncer. Puis on a beaucoup de travail à faire sur ce point-là, notamment l'effet qu'il y a environ seulement 5% des dossiers, des cas d'agression sexuelle qui sont dénoncés. Alors, on travaille beaucoup du côté québécois à faciliter l'accompagnement, le soutien aux personnes victimes qui ont toutes des histoires différentes et qui ont des besoins particuliers. Donc, on adapte nos palais de justice avec des zones sécuritaires pour faire en sorte que les victimes aient le moins possible à croiser leur agresseur au palais de justice. On développe des salles de télétémoignage pour pas être dans la même salle que l'accusé. Mm-hmm. Également, on s'est assuré que désormais, c'est toujours le même procureur qui va suivre du début à la fin la personne victime. Même chose pour les intervenantes socio-judiciaires de liaison des centres d'aide aux victimes de la criminelle qui accompagnent les personnes victimes, bon, la même personne du début à la fin. Donc, ça fait partie du fait qu'on simplifie la vie à la victime pour éviter qu'elle ait à répéter à de multiples reprises son histoire puis être revictimisée dans le cadre du processus judiciaire. Alors, voyez-vous, nous, de notre côté, on fait énormément d'efforts. L'ensemble des formations politiques à l'Assemblée nationale sont d'accord avec l'approche qui a été prise par le gouvernement et les organismes de soutien aux personnes victimes aussi. Alors, on demande vraiment aux différents chefs fédéraux de s'engager à abroger cette loi-là, notamment pour les agressions sexuelles, mais il n'y a pas juste ça également. Ils ont diminué les peines pour le trafic de stupéfiants, donc le trafic de drogue et la possession d'armes à feu. Écoutez,
ça en pleine guerre là, de groupes criminalisés, là, c'est très problématique également.
Bien, ça amène une problématique également. Alors, vous savez, c'est un choix collectif qu'on a à faire. Pour nous, c'est très clair que trop longtemps, les personnes victimes n'ont pas été priorisées dans le système de justice. Puis ça signifie pas d'enlever des droits aux accusés, là. Le droit à une défense pleine et entière, le droit de garder le silence, le droit à avoir une audition juste, impartiale et indépendante, tout ça est maintenu. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on prend en compte maintenant les droits des personnes victimes, puis on leur donne une place prioritaire dans le système de justice parce que les victimes aussi ont des droits.
En effet. Monsieur Jolin Barrette, je sens une déception chez vous par rapport au gouvernement libéral depuis 2021 dans ses politiques. Il y a la même déception qu'on a sentie la semaine dernière lorsqu'on a interviewé votre collègue à l'immigration, Jean-François Roberge. Est-ce que c'était planifié de votre côté de faire ces sorties-là en pleine campagne électorale pour mettre de la pression justement sur le PLC?
Ben, je pense que ça s'adresse à l'ensemble des formations politiques. Vous savez, on prend pas position dans le cadre de la campagne électorale fédérale. Cependant, on aura à travailler avec le prochain gouvernement, peu importe qui il sera, puis à qui les Québécois feront confiance au niveau fédéral. Alors, nous, ce qu'on cherche à faire dans le dossier, notamment des peines Netflix, c'est de sensibiliser les futurs élus fédéraux aux problématiques que ça amène pour la confiance des personnes victimes, la confiance du public dans le système de justice, et surtout, est-ce que quelqu'un qui trouve ça normal qu'on est passé d'une cinquantaine de dossiers à plus de 700 dossiers où il y a eu des peines avec sursis? C'est véritablement une problématique, et moi, ça m'inquiète, puis ça va à l'encontre des efforts qu'on fait au Québec.
Monsieur Jolin Barrette, est-ce qu'il y a un lien à faire entre les peines Netflix, donc à domicile, et le manque de place dans nos centres de détention, ou pas du tout?
Non, il n'y a pas de lien à faire. Écoutez, on n'adopte pas une loi pour adoucir les peines s'il y a de la place ou non. Okay. Les services correctionnels sont capables d'assumer. D'ailleurs, c'était le cas avant la modification législative en 2022. Donc, on peut pas se dire, écoutez, on a des défis en termes d'infrastructure, donc on va diminuer la punition associée au comportement répréhensible. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans un système de justice, dans un système de droit, ben il faut que notre système prenne en compte les valeurs de la société. Puis moi, je pense que les Québécois souhaitent que lorsqu'il y a une agression sexuelle grave, ben les individus qui ont commis ce genre de geste-là à l'encontre d'une personne victime, ben soient pas à la maison pour purger leur sentence.
Lorsqu'on parle de votre gouvernement ici en onde sur boulevard 102.1, il y a énormément de gens qui nous textent pour nous dire hey, Simon Jolin Barrette, là, je le vois comme un futur chef politique, je le vois comme le futur chef de la CAQ. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser dans un avenir politique quand même à court terme?
Non, écoutez, moi, le premier ministre, M. Legault, me donne des mandats fort importants, puis je suis très heureux de servir avec lui, puis je souhaite que M. Legault demeure le plus longtemps possible premier ministre du Québec, et c'est pour ça qu'il va se représenter à la prochaine élection.
Mais pour vous, là, est-ce que c'est quand même quelque chose que vous avez dans le viseur un jour de dire « Hey, j'aimerais ça être premier ministre du Québec ».
Moi, je suis très heureux à la justice, aux relations canadiennes, puis je fais avancer les dossiers, puis les mandats que le premier ministre me confie. Et d'ailleurs, si on a pu en faire autant pour les personnes victimes au cours des 8 dernières années, c'est à cause de M. Legault qui y croit, puis qui a décidé d'investir des sommes importantes. Prenez juste le programme de l'IVAC, là. Lorsqu'on l'a réformé, l'IVAC donnait environ 123 millions de dollars aux personnes victimes. Et cette année, avec le dernier budget, on est à plus de 600 millions de dollars en indemnisation pour les personnes victimes. Alors, on va continuer le travail.
Monsieur Jolin Barrette, vous surveillez quoi dans le débat en français au fédéral ce soir?
Ben écoutez, très certainement, c'est cinq, à savoir est-ce que les partis politiques vont s'engager à modifier la loi et également si les chefs fédéraux vont s'engager à négocier avec le Québec pour que le Québec participe au processus de sélection des juges. Ça, je pense que c'est un élément fort important également.
Est-ce que justement, participer à ce processus de nomination-là ferait en sorte qu'il y aurait moins d'arrêts Jordan dans le système de justice?
Ben moi, ce que je peux vous dire, c'est que les délais de nomination par le gouvernement fédéral sont très longs à la Cour supérieure. Nous, au Québec, lorsqu'il y a un juge qui annonce sa retraite ou qu'il y a un poste qui est vacant pour autre raison, supposons maladie, on ouvre rapidement le poste puis on cherche à le combler vraiment rapidement parce que si les postes ne sont pas comblés, bien, ça amène des délais judiciaires aussi. Il faut donner des ressources au système de justice. C'est pour ça qu'on a ajouté beaucoup de juges depuis qu'on est arrivé en 2018. Alors, pour nous, c'est une question aussi que le Québec puisse prendre sa place au processus de nomination. On est une des seules fédérations dans le monde, là, quand vous regardez, supposons avec l'Australie, la Suisse, l'Allemagne ou même les États-Unis, où les États fédérés, les provinces, participent pas au processus de sélection d'une façon qui est formelle. Alors, ça amène un débalancement et une force, un fort sentiment de centralisation. Et je pense que on devrait y participer. C'est une demande historique qui date depuis plus de 60 ans par tous les gouvernements du Québec de participer au processus de sélection des juges. Puis je pense que la fédération en serait gagnante si le Québec avait une plus grande autonomie à ce niveau-là.
Non, en effet, il serait vraiment temps de remédier à cette situation-là. Parlant de vraiment le temps, est-ce que c'est ce soir qu'enfin le Canadien de Montréal se qualifie pour les séries éliminatoires, selon vous?
Mais je l'espère. je l'espère. En tout cas, ils nous tiennent en haleine.
Absolument.
Avez-vous trippé sur l'arrivée de Demidov?
Ben, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Écoutez, on va prendre toutes les nouvelles positives, hein. Puis vous savez ce qui peut arriver, hein. Même si on est dénégligé, même si on se qualifie à la limite, tout peut arriver, hein, quand on a du cœur.
Simon Jolin Barrette, ministre de la Justice ici au Québec. Monsieur Jolin Barrette, merci pour la discussion ce matin. Très apprécié.
Un grand plaisir. Bonne journée à vous.
Salut, bonne journée.
À bientôt. Super discussion. C'était la première fois qu'on lui
parlait. Première fois qu'on lui
parlait. Direct, hein, ou qu'on lui parlait ici au show.
J'en reviens pas comment il maîtrise ses dossiers. Comment il maîtrise ses sujets. Quand on parle justement d'une étoile montante en politique, Simon Jolin Barrette l'est assurément. Il est en parfait contrôle de son ministère. Honnêtement, même s'il veut pas dire qu'il...
Il veut pas se mettre son chef à dos.
Hey, on le comprend quelque part.
C'est un futur candidat à être premier ministre. Mais il y a gagne... aucun doute dans mon esprit.
En ce moment, c'est plus ses actions que ce qu'il a à dire. Dans le sens que il gagne à rien de déclarer tout de suite comme « Eh oui, c'est sûr, je fais la place à Legault éventuellement. »
Exactement. Et il met une superbe pression sur les partis politiques fédéraux en pleine campagne électorale, fait dans un bon ton, avec justement des faits 706 criminels qui sont en peine Netflix, hey, tant d'arrêts Jordan qui sont faits, fait que c'est pour ça qu'il faut nommer nous autres même les juges. Donc, il se base sur des faits réels et des faits qui sont très questionnables, voire même très terrifiants pour nous, la population. Hey, de savoir qu'il y a des gens qui ont violé des femmes qui se retrouvaient à la maison.
Ouais. Ben, puis à la maison, c'est pour ça que je voulais absolument poser la question. Tu sais, dans les fins détails, j'étais comme, OK, c'est bien beau, là, mettons, t'es pogné à la maison, comme si t'étais dans une prison, mais t'es chez vous, fait que t'as Netflix, OK, on se comprend. Mais moi, c'est le fait que, oui, t'es suivi, mais il y en a qui se sauvent. Il y en a qui quittent la province, le pays, il y en a qui se cachent, il y en a qui vont récidiver aussi.
Oui.
Tu sais, c'est bien trop dangereux d'avoir ces criminels-là juste à la maison, mais aussi dans la société. Là.
Beaucoup trop dangereux de les avoir en société. Il faut amener ces gens-là en prison. Je suis tellement d'accord avec Simon Jolin Barret. Pour terminer sur la comparaison avec le hockey, je pense que c'est le Nick Suzuki de la CAQ. Il s'est développé tranquillement.
Puis
et là, il est vraiment devenu un leader au sein de
deux sens de la glace.
Deux sens de la glace. Il est capable de jouer partout. Il gagne les gros face-off. T'sais, c'est le leader parlementaire, donc en chambre, là, c'est lui qui va gagner la grosse mise au jeu défensive parce qu'on s'entend à CAQ et sa défensive.
Hey, après la pause, on va justement parler du match ultime de ce soir. Canadiens Hurricanes avec une place en série en jeu.
Jusqu'à